bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Mounia Van de Castel, Arjuna Andrade, Cédric Fuentes et Cyril Brenning. À la réalisation Marie Placé, prise de son Pierrick Monsigny.
Entendez-vous l'écho ? Par Maïlys Besri.
Nous terminons aujourd'hui notre série consacrée à la mondialisation par un débat. Après nous être glissés dans la peau de l'économiste classique David Ricardo, père du libre-échange et de la théorie des avantages comparatifs, nous avons suivi les métamorphoses de la mondialisation au gré des vagues des 19e et 20e siècles. Un processus qui, comme le prévoyait la théorie, a libéralisé le commerce, fait circuler les biens, les services et les capitaux. Mais une mondialisation pourtant moins absolue qu'il n'y paraît, puisque faite de zones de repli, de sélection de travailleurs et de contrôle de frontières. C'est de cette mondialisation mouvante dont nous allons parler aujourd'hui jusqu'à 15h. Vous êtes sur France Culture et c'est l'heure du débat d'Entendez-vous l'écho. Pour débattre avec nous des mutations de la mondialisation, nous accueillons aujourd'hui autour de la table Mathilde Dupré, chargée de campagne pour la responsabilité dans les accords commerciaux à l'Institut Veblen. Face à elle, Sébastien Jean, directeur du Centre d'études prospectives et informations internationales et auteur de l'économie mondiale en 2018, publié aux éditions de La Découverte. Et enfin Thierry Keller, directeur de la rédaction du magazine Ouzbek Erika, qui se spécialise dans l'étude du futur et qui fait son entrée dans le studio. Bonjour. Il est 14h. À 14h50, ce sera l'heure de retrouver Mounia Van de Castel pour les nouvelles de l'écho. Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors d'abord, on a parlé de la mondialisation toute cette semaine et on a eu le sentiment qu'elle nous était présentée comme un processus un peu inexorable, un peu incontestable. Jean-Sébastien, qu'est-ce que vous diriez de cela pour commencer ?
Non, je crois, surtout quand on prend une perspective historique, ce que vous avez fait dans une des émissions de la semaine, je crois qu'on est vite amené à constater qu'il n'y a rien d'inéluctable à la mondialisation. Il y a des grandes étapes. Et donc la première mondialisation du 19e siècle, qu'on a maintenant d'ailleurs un peu décalée, la littérature, disons, placée son début dans les années 70, en fait, il s'avère maintenant que c'est plutôt un plateau, cette période-là, que son début, il était beaucoup plus tôt que ça. Puis, évidemment, la démondialisation de l'entre-deux-guerres, et puis ensuite, une mondialisation moderne dans laquelle on peut séparer au moins deux étapes. Moi, il me semble que...
D'où certains qui disent trois mondialisations, voilà. En tout cas une deuxième mondialisation en deux étapes.
La mondialisation, c'est toujours la conjonction d'un contexte de géopolitique, de technologie et d'institutions. Géopolitique, au 19e, c'est l'après-congrès de Vienne, hein, la Pax Britannica sur l'Europe. Technologie, au 19e, c'est le développement du train, des moteurs à vapeur, des bateaux à vapeur, puis ensuite du transport frigorifique, des télégraphes. Institutions au 19e, à chaque fois dans les institutions, il y a commercial et financière. Ben, commercial au 19e, ça a été l'abolition des Corn Laws, puis les traités de libre-échange, la libéralisation britannique, les traités de libre-échange, notamment évidemment le traité Cobden-Chevalier en 1860. Et puis financièrement, les talons or. Ensuite, donc si on regarde après-guerre,
qu'est-ce que vous voulez dire, c'est que des innovations technologiques et des évolutions des organisations, des institutions ont toujours été de pair dans la mondialisation avec aussi l'évolution de la finance et de la monnaie.
Oui, je veux dire par là effectivement qu'il faut vraiment prendre tout ça comme un ensemble. Rien n'est possible sans la conjonction de ces différentes dimensions. En tout cas, les trois comptent énormément. Et donc, c'est important, je crois, de replacer ce contexte, de comprendre cette articulation si on veut analyser ce qui se passe aujourd'hui et ce qui peut se passer dans l'avenir. Donc, si on tire ce fil, disons, pour faire rapidement, dans l'après-Seconde Guerre mondiale, on a un contexte qui, évidemment, était celui de la guerre froide, donc une mondialisation en fait qui a été essentiellement le contexte des alliés des États-Unis, hein, c'était pas une mondialisation qui touchait l'ensemble du monde, parce que le bloc soviétique était à part. La technologie, elle a été marquée évidemment par un progrès technologique important, notamment dans toutes les technologies de transport, mais en particulier, il y a eu le choc de la révolution des containers. Les containers, c'est le premier, Malcolm McLean, c'est 1956, mais le développement des containers, d'ailleurs ironiquement en fait, c'est la guerre du Vietnam qui a donné vraiment son impulsion quand
comme souvent en matière d'innovation technologique,
souvent,
les guerres.
Existait.
apparaissent comme des stimulants de la technologie.
Absolument, ça a été l'utilisation de masse parce que les besoins logistiques de l'armée américaine étaient phénoménaux. Et donc ça, c'était 10 ans après, c'était autour de 1966, et ça a vraiment fait exploser le commerce mondial en diminuant énormément ses coûts. Et puis les institutions, évidemment, c'est les institutions de Bretton Woods, avec donc aussi bien au niveau monétaire, FMI et le système des talons dollars, que le GATT. Et puis, bon, cette mondialisation, en fait, elle a deux phases, en tout cas, elle s'est régénérée profondément, et il me semble que c'est vraiment une phase différente, à partir de 1990, en gros, sous trois impulsions. Géopolitiquement, la fin de la guerre froide, la chute du rideau de fer, une période qui a été pour moi une période de Pax Americana où il y a eu quand même une domination très forte des États-Unis. En même temps, l'ouverture de la Chine, elle s'était amorcée évidemment au début des années 70 avec le rétablissement des relations avec les États-Unis, mais elle a vraiment pris son virage là. Technologiquement, les technologies de l'information et de la communication, l'Internet, vraiment des nouvelles possibilités de coordination incroyables par rapport à ce qu'on connaissait, inimaginables.
Et on s'arrête là parce qu'on va y aller tout par étape, Sébastien Jean. Et on se disait justement que ce concept n'était pas du tout linéaire. On a parlé cette semaine des mondialisations. Vous parlez d'une mondialisation qui s'est régénérée. Qu'est-ce que vous en pensez, Thierry Keller? On aime bien faire dialoguer le jeudi des économistes avec des non-économistes. Est-ce que le
avec
concept,
moi vous serez servi.
Avec le concept de mondialisation, est-ce que justement ça vous apparaît comme un concept pluriel?
C'est très amusant de voir qu'effectivement après 1990, il y avait cette espèce de pensée magique d'une mondialisation qui serait non seulement heureuse, mais en plus inéluctable. Or, on s'aperçoit qu'il y a un double mouvement. On n'a jamais compté autant de kilomètres de frontières que depuis la chute du mur de Berlin. D'abord, ça a commencé avec les Balkans, et puis là, on commence à avoir des pulsions sécessionnistes qui sont fortes au sein même de l'Europe. Imaginons que la Catalogne devienne réellement indépendante, on rajoutera encore quelques centaines de kilomètres de frontières. Ce qui bat en brèche complètement l'espèce d'hégélianisme géographique qui avait cours dans les années 90-2000. Et qui s'accompagne d'un mouvement contraire qui est effectivement celui de l'internet,
donc
fantasme.
Donc on remet des frontières d'un côté et d'autres frontières sont abolies.
Alors là aussi, internet, je pense à une sorte de double réalité, c'est-à-dire d'un côté un aplanissement des frontières et une sorte d'émergence d'une citoyenneté globale qui était là encore en germe dans non seulement dans la technologie Internet, mais dans sa visée culturelle, et en même temps, l'arrivée soudaine du fameux concept de bulle de filtre qui fait que aussi bien on peut être le voisin d'un New-Yorkais ou de quelqu'un qui vit au bout du monde en Asie, et en même temps nous fonctionnons à l'intérieur de bulles culturelles qui sont finalement assez étanches les unes au regard des autres. Et donc cette mondialisation culturelle et technologique liée à l'internet crée la possibilité d'être les frères humains les uns des autres et en même temps d'être dans des espèces de systèmes sécessionnistes les uns au regard des autres.
En tout cas, elle a changé la nature de certains échanges, que ce soit les échanges entre États. D'ailleurs, est-ce que cette notion d'État est encore pertinente quand on parle de mondialisation? On se rend compte, Mathilde Dupré, qu'il y a plein d'échelles qui se chevauchent, les échelles régionales, les échelles locales, les échelles mondiales. Et que la question des États est finalement peut-être un peu parfois secondaire, en tout cas moins importante que ce qu'on pourrait penser.
En tout cas, ce qu'on observe, c'est qu'avec les nouvelles technologies de l'information, la baisse très importante du coût des transports, effectivement, aujourd'hui, on a des chaînes de valeur, des chaînes de production mondiales qui se sont considérablement allongées, avec des biens made in monde, si on peut le dire comme ça, et des entreprises qui, du coup, ont acquis une taille multinationale très très importante et dans un contexte avec une libre circulation des marchés des capitaux qui permet en fait aux entreprises de s'émanciper des tutelles des États, des règles qui leur sont imposées par les États, voire parfois de mettre en concurrence les législations fiscales, sociales ou environnementales des États. Et aujourd'hui, c'est peut-être dans cette phase un peu paradoxale de la mondialisation dans laquelle on est, c'est-à-dire qu'on a un droit commercial, un droit de l'investissement qui sont très fortement mondialisés et contraignants avec toute une somme de règles qui sont presque acceptées par tout le monde. Et on a des droits sociaux, environnementaux ou des droits humains dont dont les développements internationaux restent assez balbutiants et pour l'instant très, très peu contraignants.
Sébastien Jean ?
Oui, je trouve que je voulais juste souligner que la fragmentation, en fait, n'est pas antithétique de la mondialisation, de cette situation de mondialisation. Pourquoi ? Parce qu'un État, au fond, a à gérer des différences entre les différentes les personnes qu'il compose, les régions, des cultures, etc. Et finalement, c'est souvent un peu problématique, cette hétérogénéité. Comment est-ce que la mondialisation interfère avec tout ça ? En rendant viable, ou plus facilement viable, ou moins coûteux, une réduction finalement de la taille des États, parce que les relations extérieures sont plus faciles, et donc un plus petit État peut espérer s'en tirer avec un moindre coût, disons. On le voit dans le cas de la Catalogne, c'est-à-dire que visiblement il y a un effet paradoxal et involontaire de l'Europe sur l'indépendantisme catalan, parce qu'elle le nourrit, parce que les Catalans se disent on peut très bien faire sans l'Espagne, on a l'Europe. Et finalement, on a la mondialisation d'une certaine façon. C'est-à-dire que on peut vivre, nous, petits, parce qu'on est dans un monde dans lequel les relations commerciales et d'investissement seront faciles, et ça va nous donner un cadre dans lequel on pourra vivre finalement assez bien. Donc je pense que c'est pas une conséquence voulue ou nécessaire, mais de fait, les deux tendances peuvent être assez complémentaires.
Les échanges avec la mondialisation et notamment ce qu'on a appelé dans les années 80-90 l'hyper-mondialisation, ça a favorisé les échanges aussi entre entreprises, donc avec une autre échelle que celle justement des échelles politiques.
Oui, qui vient se juxtaposer à celle des États et qui prend une grande importance parce que une très grosse partie du commerce mondial est un commerce intra-firme, hein, entre différentes filiales d'une même firme. Ça juxtapose une logique de pouvoir et de décision et d'intérêt qui est en parallèle et différente de celle des États, et ça crée effectivement un jeu assez complexe dans ce contexte. Et il est vrai que ce qui a vraiment caractérisé, je crois, l'hypermondialisation, ça a été en particulier ce développement de multinationales qui ont des usines dans le monde entier, ce qu'on appelle les chaînes mondiales de valeur, avec maintenant des investissements directs étrangers qui, au niveau mondial, représentent plus du tiers de la richesse mondiale, du PIB mondial. Donc c'est énorme.
Mathilde Dupré.
Sur ce point, il faut voir qu'il y a aussi une partie qui constitue une forme de gonflement artificiel des échanges, que ce soit des échanges de biens et services ou des échanges des flux d'investissement. Parce que justement, comme il y a plus de 60% du commerce mondial qui est du commerce intra-firme, on voit aussi que aujourd'hui, il y a des stratégies de la part de ces entreprises transnationales qui ont segmenté au millimètre près toutes leurs activités pour les localiser dans les pays qui offrent les conditions les plus avantageuses, notamment fiscales, et que ça crée des flux, en tout cas sur le papier, qui sont en partie artificiels. Quand on voit que la banane qui va d'Amérique centrale vers le Royaume-Uni fait en théorie 7 étapes intermédiaires, parce que ça permet de jouer sur les prix de transfert et donc de délocaliser artificiellement une partie de la valeur pour qu'elle soit soustraite à l'impôt dans le pays de production, dans le pays de commercialisation. Ou quand on voit que il y a quelques années, l'Allemagne recevait moins d'investissements directs étrangers que la Barbade, les îles Vierges britanniques ou les Bermudes ensemble, on voit que là, il y a aussi eu des choses qui ont été rendues possibles par les règles actuelles de la mondialisation, mais qui vont au-delà de ce qu'on pourrait souhaiter dans les échanges internationaux.
Thierry Keller, vous disiez tout à l'heure que Internet et le développement justement aussi des logiques de marché dans les années 80-90 avaient modifier la donne. Internet, évidemment, un peu plus tard, 90-2000. Mais c'est cette conséquence d'une économie à la fois libéralisée d'un côté et de l'autre avec l'apparition d'Internet qui a changé la donne.
Ça a changé la donne et ça a aussi changé, je crois, les perceptions. Parce qu'il y a la réalité avec des chiffres, disons, bruts et on voit bien qu'on est vraiment, pour le coup, dans une réelle mondialisation, presque plus que le moment où on parlait d'hypermondialisation. C'est-à-dire que là, elle est réellement notre horizon. Et en même temps, c'est intéressant de travailler sur les fameuses perceptions. On a toujours tendance à penser que, par exemple, en France, et moi j'ai pas mal travaillé sur les perceptions de la mondialisation au niveau français, que là où on s'attendait à ce que les Français se sentent citoyens européens, qui citoyens du monde, ou bien symétriquement issus d'un village et ayant, disons, une identité plus régionale, on se rend compte que là, pour le coup, l'État-nation est un État protecteur et vécu comme un État protecteur.
Dans les perceptions.
Dans les perceptions, on demande à l'État-nation, et c'est peut-être là qui explique le besoin de frontières, en tout cas je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut l'expliquer, mais c'est une réalité que l'État-nation est peut-être dans les perceptions le dernier rempart face à une mondialisation libérale qui viendrait disrupter jusqu'à nos citoyennetés et jusqu'à nos manières d'être au monde.
Sébastien Jean, on parle d'hypermondialisation, il faudrait peut-être expliquer ce qu'on a appelé comme ça. L'hypermondialisation des années 90, est-ce que c'est lié justement à cette intégration des différentes économies, à la financiarisation ?
Oui, c'est si je reprends la distinction que je faisais tout à l'heure, enfin l'articulation entre géopolitique, technologie, institution, c'est la combinaison donc de la fin de la guerre froide et de la domination américaine, du développement de l'internet, des technologies de l'information et de la communication, et puis de deux évolutions institutionnelles principales, de point de vue commercial, l'OMC bien sûr, puis beaucoup d'accords bilatéraux, mais même avant ça et peut-être encore plus important, la libéralisation financière internationale qui en fait date de la fin des années 80. Le résultat de tout ça, il tient en deux ou trois chiffres. L'ouverture commerciale mondiale, c'est-à-dire les exportations mondiales mesurées en proportion du produit intérieur brut, 18% en 93, 30% en 2007. Stock d'investissement direct à l'étranger, mesuré en proportion du PIB mondial, moins de 10% au début des années 90, plus un tiers. Au moment de la crise, parce que l'évolution majeure, elle est entre le début des années 90 et la crise.
La crise de 2008.
Créances bancaires internationales envers des étrangers, 10% du PIB dans les années 80, 60% en 2007. Donc des évolutions qui, à l'échelle historique, sont incroyables. Et une dernière chose, une dernière marque vraiment très importante de cette période, c'est évidemment l'explosion des pays émergents, en particulier de la Chine. Si on prend le poids des pays riches dans la richesse mondiale, ça a été une évolution séculaire depuis la révolution industrielle. La richesse s'est concentrée dans les pays riches. Et donc il y a eu cette lente augmentation du poids de ce que maintenant on identifie comme les pays riches de l'OCDE dans l'économie mondiale. Le parcours qui a été fait à l'envers depuis 1990, ça correspondait à l'augmentation de tout le XXe siècle. Donc une soudaineté incroyable. C'est essentiellement la Chine qui est derrière ça, bien entendu. Mais à l'échelle de la tectonique des plaques de l'économie mondiale, si vous voulez, ça a été quelque chose vraiment d'extrêmement soudain, cette évolution.
Mathilde Dupré, on a le sentiment justement dans cette analyse complexe qu'on est obligé de faire pour la mondialisation, à savoir stratégique, géopolitique, politique tout court, mais aussi bien sûr économique. Il y a cette question, peut-être moins de l'hégémonie d'un pays comme c'était le cas avant la guerre froide, mais en tout cas de la locomotive qui, à un moment donné, va redistribuer les échanges internationaux. On parlait de la Chine.
Alors, ce qu'on voit, en tout cas, avec les lunettes européennes, c'est que le FMI annonce que 90% de la croissance mondiale sera générée à l'extérieur de l'Union européenne. Donc, c'est le principal argument de justification qui est utilisé pour dire qu'il faut continuer à négocier et à signer de nouveaux accords de commerce pour essayer de s'arrimer à cette croissance mondiale. Et effectivement, un tiers de cette croissance serait du fait de la Chine. Après, ce qu'on voit aussi, c'est que dans les arguments géopolitiques, il y a des choses qui peuvent avoir tendance à fluctuer. Là, dans les récentes années, on avait effectivement... démarrer beaucoup de négociations, notamment avec les économies nord-américaines, peser dans la définition des normes internationales contre la Chine, justement. Enfin, pour il y avait une vraie volonté des États-Unis de en quelque sorte contourner la Chine et de créer des espaces régionaux à la fois du côté pacifique et transatlantique pour encadrer la Chine et lui imposer en quelque sorte des règles à respecter. Après, on voit que les choses sont fluctuantes, puisque depuis l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis, évidemment, ça a quand même fondamentalement changé la donne.
Il y a deux choses dans le terme démondialisation. Il y a un aspect positif, c'est-à-dire d'observation des faits. Cette histoire de réduction du commerce mondial par rapport à la croissance mondiale, c'est un phénomène qui est très marquant. Le taux de croissance du commerce mondial est beaucoup plus faible que celui de la croissance, ce qui n'était pas du tout le cas dans les années précédant la crise du subprime. Donc on est dans une période de reflux des échanges mondiaux, bien entendu. Ça, c'est un phénomène qu'il faut analyser, sur lequel je voudrais revenir. Et puis, il y a un aspect normatif, qui est un aspect de politique. Et souvent, on confond les deux. Or, quand on regarde les aspects aspects normatifs, c'est-à-dire effectivement le libre-échange, les mesures de protection. On n'est pas plus dans des périodes, si vous voulez, il y a l'effet de la crise, bien entendu. On n'est pas plus dans des périodes de renationalisation, si on entendait la démondialisation comme un phénomène de renationalisation des échanges, que nous l'avons été dans les périodes précédentes. Il y a un reflux qu'il faut analyser. Alors, il me semble que, si vous voulez, sur la démondialisation, c'est un peu un aspect velléitaire qui l'emporte sur l'aspect réel. La mondialisation, c'est quoi d'abord ? D'abord, la mondialisation, c'est 5 composantes. C'est le commerce international, bien entendu. Et là, on voit bien apparaître un effet de reflux dont je viens de parler. Il y a les investissements directs étrangers. Il y a la finance et les capitaux à court terme. C'est la 3e composante. Il y a une 4e composante qui sont les connaissances et les technologies, les brevets, etc. Et puis une 5e composante qui sont les migrations internationales. On pourrait parler de réels mouvements de démondialisation au sens de renationalisation des composantes de la mondialisation si toutes ces composantes refluaient sur les bases nationales. Ça n'est pas ce que l'on observe.
Alors, c'est notre invité d'hier qu'on entendait, El Mouhoub Mouhoud. Sébastien Jean, il va falloir que nous fassiez un petit travail de décryptage sur ce qu'il a raconté. Il parle de ce monde d'après-crise de 2008 et qui a établi une sorte de pause dans la mondialisation, en tout cas un ralentissement contraint.
Oui, une rupture très nette qui pose la question de son interprétation et en particulier qui fait qu'on se demande beaucoup, est-ce qu'on est face à un virage qui annonce une démondialisation? Comment s'est-il concrétisé? Par là, une réalité de chiffres assez claires, c'est-à-dire que le commerce mondial dans les 15 ans qui ont précédé la crise a cru 2 fois plus vite que le PIB, en moyenne un peu plus de 7% l'an. Depuis, bon, il y a eu la crise, je passe parce que c'est très agité, c'est très difficile de décrypter cette période. Mais si on regarde après, à partir de 2011, le commerce croît grosso modo à la même vitesse que le PIB, à 2,5% l'an. Donc c'est un fossé de la différence entre les deux. Je vous parlais tout à l'heure des créances que les banques ont sur des étrangers. 60% du PIB mondial en 2007, 40% aujourd'hui. Donc la très forte augmentation depuis, il y a eu un retour en arrière. Alors évidemment, ça pose la question de savoir comment on extrapole le trait au-delà de cette rupture.
Ça pose aussi la question de qu'est-ce qui est conjoncturel, qu'est-ce qui est structurel. Est-ce
Absolument.
Que c'est une pause dans la mondialisation? Est-ce que la mondialisation va prendre de nouvelles formes? Mmh. Ou est-ce qu'on est en train de se démondialiser, ce sur quoi on est un peu sceptique?
Voilà. Il faut savoir exactement ce qu'on met derrière le terme démondialisation, c'est-à-dire que, mondialisation, pardon.
Peut-être démondialisation aussi. Peut-être ça vaut le coup de la définir 2 secondes avant de revenir.
Justement, donc, je crois qu'il y a déjà 2 choses différentes. Il y a le niveau d'interaction économique entre les pays, le niveau d'interdépendance, et puis il y a la vitesse d'évolution, c'est-à-dire l'augmentation de cette interdépendance. Les 15 années qui ont précédé la crise ont été marquées par une augmentation très forte de ces interdépendances. D'accord ? On a monté une marche. Quand on regarde avec du recul sur des longues séries, c'est très très clair, c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Depuis la crise, on a peut-être un tout petit peu baissé, mais il n'y a pas de tendance à la baisse de ces interactions. Simplement, elles se sont relativement stabilisées. Parce que les moteurs qui avaient changé la donne au début des années 90, ils n'ont pas disparu.
Ils existent toujours, il n'y a pas eu de modifications structurelles la volonté politique, comme il y a pu avoir après la crise de 29.
Absolument.
Des modifications impulsées par les chefs d'État.
Voilà, donc on n'est pas à l'abri de chocs géopolitiques demain, et puis bon, l'actualité n'est pas toujours rassurante à cet égard, mais enfin, jusqu'ici, en tout cas, il n'y a pas de choc géopolitique majeur qui ferait régresser. Il y a la technologie, elle existe, et donc la possibilité de piloter depuis Paris de façon très coordonnée un processus de production de l'autre côté du monde, elle existe et elle va continuer à exister. Et donc tout ça ne régresse pas. Voilà. Simplement, on a une réalité qui est différente. Donc ce monde-là est en place, ces chaînes de valeur mondiales sont en place. Mais on a une réalité différente, c'est-à-dire moins... Il faut voir qu'au début des années 2000, la Chine, les grandes émergences, c'était l'Eldorado. Pour une grande entreprise multinationale, il était impensable devant son conseil d'administration de ne pas aller présenter une stratégie fondée sur comment être présent dans là où il y a la croissance, c'est-à-dire en Chine. Aujourd'hui, il reste de la croissance en Chine, entendons-nous bien.
Il y a un ralentissement.
C'est nettement moins dynamique. Et puis en plus, ils ont tendance à se recentrer. Donc, on a un autre regard. Voilà.
Mathilde Dupré, sur cette question des conséquences de la crise, il y a les séquelles financières d'un côté, les dysfonctionnements européens aussi. On a parlé du ralentissement de la Chine, mais il y a aussi les dysfonctionnements européens. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette mondialisation d'après crise financière ?
Je crois que l'approche a pas fondamentalement changé, puisque c'est justement juste après pendant même quasiment la crise financière que l'Union européenne a voulu lancer un certain nombre de grandes négociations commerciales, notamment avec les États-Unis, le Canada et une vingtaine de négociations bilatérales ou régionales qui sont en cours, avec en plus l'idée que ce serait une forme de paquet de relance sans dépenser d'argent du contribuable. Le simple fait d'aller signer des accords pour booster les échanges et le contenu de ces accords est finalement assez classique, à la différence près que on a intégré, puisque c'est des États et des zones économiques avec lesquelles on a déjà des relations commerciales très très fortes et des interconnexions très fortes, et que du coup pour pouvoir véritablement accélérer les échanges, l'objectif c'était de passer une étape de plus et d'essayer de faire converger les systèmes réglementaires, et donc c'est là qu'on touche à toutes les normes de protection de la santé, de l'environnement, des consommateurs, etc.
Sans nécessairement d'ailleurs consulter les citoyens sur ces questions.
Alors ça c'est une autre question dont on parlera, mais c'est une des questions d'ailleurs pour lesquelles il s'est cristallisé autant d'opposition sur ces accords de commerce.
Mais avec qui incite à discuter et à passer des accords, mais de l'autre la manière dont se passent ces accords et dont ils se discutent.
C'est certain que la Commission européenne négocie ces accords de façon complètement opaque, sans donner aucune information sur le mandat de négociation qui a pu être délivré par les États membres et les propositions qu'elle fait. Mais en tout cas, la recette, elle était en quelque sorte assez classique. Et comme les négociations étaient bloquées à l'échelle multilatérale, il s'agissait d'essayer de passer par des voies bilatérales. Et c'est comme ça qu'on espérait pouvoir en partie relancer la croissance dans l'Europe.
Thierry Keller, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cette notion de démondialisation ? On en parle un peu, il y a une espèce d'idée en vogue de démondialisation qui ne se vérifie pas nécessairement sur l'observation économique.
Elle se vérifierait éventuellement, et on n'en a pas complètement parlé, si jamais il y avait une crise énergétique majeure. Il y a des scénarios prospectifs plus ou moins dystopiques qui poussent au fait que si jamais on était en pénurie énergétique, on serait tout simplement obligé de rester chez soi. Ce qui d'ailleurs irait de pair avec des nouvelles manières de vivre, de consommer, d'élaborer des nouvelles micro-sociétés et ainsi de suite. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, pourquoi on a du mal à aborder cette question et pourquoi on se demande si on est dans la mondialisation, dans la démondialisation, c'est que finalement, on peut peut-être répondre par le concept de porosité. Vous parliez de la Chine à l'instant. Ce qui est très intéressant, c'est que par exemple, les conséquences culturelles de l'émergence, de la plus qu'émergence d'ailleurs de la Chine sur le secteur économique, c'est pas tant dans les impacts en termes d'entertainment ou de soft power, plutôt qu'en termes d'orientalisation de nos mœurs à nous occidentaux. On observe par exemple...
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Je veux dire par là que ça va de pair avec une sorte de chute, en tout cas de perte de vitesse du cartésianisme à l'occidental, où on finit par nous aussi importer des nouvelles valeurs plutôt orientalistes, teintées d'un bouddhisme plus ou moins mal digéré ou bien digéré, que on est en train de se poser davantage de questions dans notre rapport à notre environnement, dans notre rapport aux éléments, et où on donne peut-être plus de prise à, disons, des éléments intangibles, orientalistes au sens large, avec tout le secteur du développement personnel, du développement spirituel. Par exemple, il y a aujourd'hui en France, on le sait peu, mais 5 millions de personnes qui s'avouent être, dans certaines enquêtes d'opinion, des sympathisants bouddhistes. C'est l'extraordinaire succès des conférences de Mathieu Ricard, ou voire du Dalai Lama quand il vient chez nous. Et puis derrière tout ça, ça pose aussi des conséquences, je dirais, en termes éthiques, puisque cette avancée exponentielle de la technologie et cette fameuse quête d'un nouvel homme ou d'un néo-transhumanisme est beaucoup moins interrogée d'un point de vue éthique et philosophique dans les pays asiatiques, qui n'ont pas du tout la culture des normes éthiques, et qui, eux, y vont gaiement sur les recherches, sur les utérus artificiels, sur la manipulation du vivant, sur tout un tas de choses qui, nous, Européens, engoncés dans notre philosophie des lumière nous fait très peur.
N'entraîne pas forcément de convergence.
Des celui qui nous le ferme. Mais moi, je m'ouvre au monde, c'est lui qui se referme. Fais donc comme tout le monde, affiche un regard ferme. Je rentre sur toi, serre donc les dents pour moi.
Une trêve,
une fronde. Moi je ménage mon monde, ça craint quand il se ferme.
Ton courage est à fondre, te donne pas trop de peine.
Oui mais ces jours, le monde montre tout d'un doigt ferme.
Et chaque seconde trouve aussi son blasphème.
Écoutez France Culture, Entendez-vous l'écho, par Maïlys Besserie.
Il y a quand même quelque chose qui est très intéressant à essayer de regarder, c'est sur ce qui se passe sur le commerce. Ben, effectivement, ce qui se passe sur le commerce, il y a une étude récente du CEPI qui l'a montré, du Centre d'études de prospective internationale. Vous avez eu effectivement une réduction des échanges mondiaux après la crise des subprimes qui s'est poursuivie, qui continue à se poursuivre, qui est pas seulement dû à des effets conjoncturels liés à la croissance affaiblie, qui est dû à des aspects structurels. Et ces aspects structurels, c'est là où on approche d'une définition à peu près correcte de la démondialisation, c'est le fait qu'une partie de la baisse de la croissance mondiale est liée à ce qu'on appelle le commerce induit par la fragmentation des chaînes de valeur. Vous savez, quand iPhone est décomposé en morceaux et qu'on en place des morceaux en Chine, en Thaïlande, etc., et que ça donne lieu à des commerces de biens intermédiaires, de morceaux de biens. Mmh. Effectivement, là, on a, dans cette étude, on montre que une partie du reflux du commerce mondial est liée au fait que les entreprises ont tendance à modifier le déploiement de leurs activités, de la fragmentation de leur chaîne de valeur à l'échelle mondiale, sur des bases régionales, pas forcément nationales. C'est pour ça que souvent on confond démondialisation et renationalisation, mais en réalité, la régionalisation des échanges l'emporte sur la renationalisation.
Sébastien Jean, deuxième petite mission de décryptage de El Mouhoud Mouhoud qui nous parle justement de la fragmentation des chaînes de valeur. Vous l'évoquiez tout à l'heure, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste et en quoi cela participe des limites structurelles au processus de mondialisation?
C'est une nouvelle étape dans l'évolution des relations commerciales internationales. Et la première, c'était ce qu'on appelait la division internationale du travail, chère à Adam Smith, Ricardo, selon laquelle, avec des coûts de transport suffisamment faibles, on n'était pas obligé de produire là où on consommait. On pouvait ensuite exporter. Et ça, c'est au fond, ça a été le ressort principal du commerce international depuis la fin du 18e jusqu'à maintenant. La nouveauté depuis les années 80-90, c'est que les coûts d'information et de coordination ont énormément chuté eux aussi. Qu'est-ce que ça signifie en pratique? Ça veut dire que mon entreprise américaine ou française, par exemple, qui a un haut niveau de technologie de productivité, elle peut produire en France, mais elle peut aussi installer une unité de production, au fond, un peu partout dans le monde, et elle pourra y mettre sa technologie. Elle pourra associer ses managers, ses gestionnaires, son encadrement à la gestion de ce site de production et le faire tourner. Donc, au fond, un économiste prenait cette image, c'est un peu finalement comme si l'entraîneur de l'équipe économique France pouvait faire jouer en fait des joueurs qu'il recruterait ailleurs. Et c'est ça qui a permis ce déploiement de ce qu'on appelle les chaînes mondiales de valeur. Au fond, c'est une autre division internationale du travail, mais beaucoup plus poussée que celle qu'on avait avant. C'est-à-dire, au lieu de dire, voilà, je divise, les pays se spécialisent et puis ils exportent aux autres, non, c'est au sein de la production d'un bien, on peut découper en tranches, et les pays, ils se spécialisent plus sur des biens, ils se spécialisent sur des tranches de production. Donc, on va avoir, par exemple, des usines au Fidji qui assemblent des fils qui permettent de connecter, des connexions très complexes, mais qui sont très intensives en main-d'œuvre, qui ensuite vont être utilisées dans des automobiles ou des ordinateurs. Voilà, c'est aussi fin que ça. C'est pour ça qu'on parle maintenant dans la littérature économique moderne de commerce de tâches plutôt que de commerce de biens.
Il y a cette question justement qui est très sensible en termes de mondialisation. Si on ne peut pas parler de démondialisation, si on peut parler plutôt de mutation, de changement de visage de la mondialisation, qu'est-ce qu'on peut dire en ce qui concerne la montée des inégalités, les questions écologiques, puisque on a vu que ces accords passés, CETA et autres, cet encouragement des échanges avait aussi des conséquences et peut-être pas envisagées, notamment en matière d'inégalité et d'écologie, Mathilde Dupré.
Bah, une des conséquences assez logiques de cette division à l'extrême des opérations de production, c'est que effectivement les entreprises choisissent pour chaque opération le pays le moins disant en quelque sorte en matière de droit du travail et de droit environnemental. Et donc on va toujours là où le travail coûte le moins cher. C'est pour ça que l'industrie textile, par exemple, est assez fortement présente au Bangladesh. Mais même quand on se rend compte qu'il y a des velléités d'augmenter les salaires au Bangladesh, et bien il y a des firmes qui commencent à envisager d'aller vers l'Éthiopie ou ailleurs. Donc effectivement, c'est un moyen qu'ont les entreprises pour toujours localiser là où c'est le plus avantageux
et contourner et part, les normes.
Aussi, mais ça fait aussi un moyen de pression sur les États pour leur dire si jamais vous envisagez de rehausser vos salaires, sachez que on peut encore aller trouver moins cher ailleurs. Et dans le domaine environnemental, c'est un peu la même chose. On peut voir qu'aujourd'hui, il y a presque un quart des produits qu'on consomme dans les pays riches
qui sont produits ailleurs.
Non, ce que je voulais dire, c'est que un quart des émissions de relatives aux biens consommés dans les pays riches, qui sont en fait des émissions de gaz à effet de serre qui ont été générées dans les pays producteurs, et on voit en miroir à peu près les mêmes proportions pour les pays producteurs, et donc on a des véritables fuites de carbone dans des paradis carbone, c'est-à-dire que les pays qui vont le moins s'engager dans le respect de l'accord de Paris et un scénario de baisse des émissions de gaz à effet de serre, et ben quelque part seront ceux qui auront des arguments pour attirer un certain nombre d'activités pour capter certaines opérations dans cette division internationale du travail. Et c'est là qu'on a des règles internationales en matière de commerce et d'investissement qui sont malheureusement complètement aveugles à ces problématiques et qu'il faut les modifier, parce qu'effectivement ça met tous les territoires en compétition. Là où il y avait un État social avec des règles de redistribution, etc., c'est les fondamentaux même de ces États qui sont sapés par cette mise en concurrence des territoires. Et là où ça n'existe pas, eh bien, ça pose des freins importants pour le développement de l'État social.
Avec les effets qu'on connaît, Mathilde Dupré, à savoir les effets sur le climat, dû aussi à l'intensification des échanges, ce qui favorise aussi l'investissement dans les industries attractives polluantes, et toutes ces conséquences qu'on pourrait développer un peu peut-être.
Bah, disons qu'aujourd'hui, effectivement, l'intensification du commerce international et cet allongement des chaînes de production, il a un effet presque automatique sur les émissions de gaz à effet de serre, notamment du fait des transports. Aujourd'hui, le transport international de marchandises, c'est 3% des émissions, mais ça pourrait augmenter. Les estimations montrent que ça pourrait augmenter dramatiquement. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument pas dans la raquette. Quand on regarde les engagements que les États ont pris, par exemple, dans le cadre de l'accord de Paris, on comptabilise les émissions nationales. Mais tout ce qui est transport international, comme ça appartient à personne, personne s'en occupe. Et il n'y a pas encore d'objectif de réduction de cette partie-là.
Et les États sont un peu impuissants à lutter contre, en tout cas, ne sont pas totalement maîtres de la situation.
Disons qu'ils discutent.
Puisqu'on a changé d'échelle.
Voilà, mais et puis ils discutent dans des organisations internationales, notamment à l'Organisation Maritime Internationale ou à celle sur l'aviation. Mais on en est encore à discuter des règles de comptabilisation de ces émissions et pas d'objectifs de réduction. Et après, effectivement, toutes les règles qui visent à encourager les investissements, à faciliter les investissements, voire à les protéger, elles favorisent tous les investissements, qu'ils soient bons ou nocifs pour le climat, que ce soit des investissements dans les sables bitumineux canadiens ou dans des énergies renouvelables. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à affiner nos règles pour qu'on puisse orienter davantage en fonction des objectifs écologiques qu'on s'est fixés.
Je voudrais dire un mot simplement sur cette idée qui commence à planer absolument partout, qui est le protectionnisme. Il faut en revenir là, il faut inverser la tendance, il faut inverser la tendance de la mondialisation. Je crois qu'il faut prendre, se rendre compte que, d'une part, le protectionnisme va augmenter le prix d'un certain nombre de produits, va diminuer le pouvoir d'achat de la plupart des individus dans une nation. C'est quelque chose qu'on ne voit pas très bien. On n'a pas vu le côté positif et on a du mal à imaginer le côté négatif, mais c'est un fait qui est relativement indéniable. Le deuxième point, c'est que aller vers le protectionnisme, c'est abandonner le progrès majeur qui a été réalisé au niveau mondial dans les 25 ou 30 dernières années, qui est pour la première fois une diminution dans les écarts de revenus entre les pays les plus riches et les pays les plus pauvres. Retourner vers un monde d'isolement, c'est couper ce mouvement qui est un mouvement salutaire au niveau mondial. Et puis, dernier point, je crois qu'il faut aussi prendre conscience, et c'était le thème initial de cette table ronde, du fait que la mondialisation est en train de changer. Elle se ralentit. Le commerce mondial a énormément ralenti ces dernières années. Et probablement, la mondialisation est en mutation. C'est autre chose qui est en train de se passer. C'est probablement beaucoup plus quelque chose qui passe par les investissements directs d'un pays dans un autre pays, par les achats et acquisitions de compagnies entre pays. Il y a quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui qui fait que la mondialisation demain ne sera plus la mondialisation d'hier, et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte.
Alors, on entendait François Bourguignon lors d'une table ronde sur la mondialisation, une notion en voie de dépassement, et là on assiste, Sébastien Jean, à cette triangulation classique entre mondialisation, protectionnisme, retour au protectionnisme, et cette question de ce que ça a généré en termes d'évolution, de développement, et ce que ça a généré aussi en termes d'inégalité.
Oui, avec des interactions, je crois, qui sont maintenant de plus en plus importantes, et y compris politiquement, entre le commerce et les autres aspects. Et je crois que c'est vraiment l'un des enjeux des débats qui est actuellement, par exemple à l'occasion du CETA. On a l'habitude de raisonner en politique économique en disant un objectif, un instrument, si on veut être efficace. Le problème qu'on a, à mon avis, avec la politique commerciale, c'est que l'objectif correspondant à la politique commerciale, c'est l'efficacité de l'allocation des ressources, la croissance, l'innovation, si vous voulez. Mais au fond, on est maintenant dans une économie très ouverte et ce qu'on appelle la loi des rendements marginaux décroissants s'applique là comme ailleurs, si bien que les gains de croissance qu'on peut espérer d'un accord supplémentaire, je pense qu'ils existent, mais je pense pas qu'ils soient très importants. Et il me semble que ça pose la question de savoir si ça suffit à justifier le prochain accord. Et dans le même temps, on a des préoccupations, des interrogations qu'on peut voir, si vous voulez, comme des coûts politiques. C'est-à-dire, comment est-ce que ça interfère avec le coût de nos politiques de régulation dans le domaine social, environnemental et fiscal? C'est-à-dire, dans le domaine, pour le carbone, on appelle ça les effets de fuite. C'est-à-dire, si je mets un prix sur le carbone, je sais que je vais avoir un effet de fuite, c'est-à-dire, je vais avoir une conséquence indésirable, c'est-à-dire que mes industries qui sont très émissives en carbone vont être concurrencées par des pays étrangers qui ont des régulations moindres, ce qui vient d'être dit tout à l'heure. Donc, c'est un effet de fuite, c'est-à-dire que ça amenuise la performance de ma et le rapport coût-bénéfice de ma politique réglementaire. Et donc, ça, c'est une préoccupation qui est d'autant plus importante que le commerce est intense, et donc, on est amené, il me semble, à prendre en compte de façon plus importante, plus lourde, ces différents aspects dans les accords commerciaux, dans la politique commerciale qu'on mène. Et donc, c'est tout le débat qu'il y a autour de ce qu'on appelle les clauses non commerciales et qui peut aussi se manifester, par exemple, dans le cas du Brexit, sur le fait de savoir si on doit avoir un accord fiscal à côté de l'accord commercial qu'on aura éventuellement avec eux.
Alors du coup, pour revenir sur cette question, Mathilde Dupré, des accords, qu'est-ce qu'on peut dire depuis la crise financière dans un contexte de relatif blocage concernant les accords, en tout cas les négociations multilatérales, puisqu'on pense notamment à l'échec de Doha. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces accords ?
Alors effectivement, les négociations sont bloquées à l'échelle multilatérale parce que les pays riches ne veulent pas accorder un certain nombre de d'avancées qui étaient exigées par les pays en développement, notamment sur les échanges agricoles et le retrait d'un certain nombre de soutiens dans les pays riches à la production agricole. Donc les pays du coup se sont détournés de cette voie multilatérale et ont choisi d'essayer d'approfondir leurs relations commerciales par la voie du bilatéralisme, ce qui pose plein de problèmes, hein, puisque ce sont des accords qui par nature sont davantage dans le rapport de force, qui marginalisent certains pays et qui laissent un certain nombre de sujets commerciaux qui étaient importants pour les pays en développement en dehors des tables de négociation.
Est-ce que ça en revient à cette idée un peu ancienne de club fermé ? Est-ce que ces accords bilatéraux font ressurgir cette idée-là ?
Bah, c'est certain que ça a un effet. Aujourd'hui, les accords bilatéraux qu'on organise, ils ont un effet sur la façon dont les chaînes de valeur sont construites, parce que dedans, on met des avantages commerciaux couplés à des règles d'origine, et quelque part, c'est-à-dire qu'on fausse les conditions de concurrence dans certaines chaînes de valeur, puisqu'il vaut mieux passer par des pays qui ont un réseau d'accords avec d'autres pour pouvoir exporter que de passer par des pays qui parfois peuvent offrir des conditions inférieures en matière de coûts de production, mais qui seront moins équipés en accords commerciaux. Donc, de ce point de vue-là, ça crée des espaces et on pourrait l'utiliser justement pour faire des clubs de pays qui posent des règles sociales et environnementales plus élevées. L'Union européenne, qui a quand même un marché très très important, pourrait décider que maintenant elle conditionne l'accès à son marché à un certain nombre de produits qui respectent des règles sociales, environnementales, voire fiscales de production. Mais malheureusement, ce n'est pas encore la voie qu'on prend. Et les accords de commerce qu'on est en train de négocier traitent absolument toutes les règles sociales, environnementales, encore comme des entraves au commerce. Et les chapitres développement durable, travail ou environnement restent des parents pauvres. De ces accords, il y a un groupe de négociateurs qui écrivait il y a pas longtemps dans une revue que la politique commerciale était une de celles qui avait le moins intégré les questions de développement durable et qu'elle avait multiplié les écrans de fumée pour montrer qu'elle s'en occupait, mais qu'en réalité elle continuait à vouloir tout libéraliser sans prendre en compte les limites de la planète ou les limites en termes de cohésion sociale ou d'exigence démocratique, et qu'elle continue à courir comme un canard sans tête. Je pense que aujourd'hui c'est tout le paradoxe dans lequel on est, et c'est pour ça que les accords tels que le CETA, qu'ont été conçus sans véritablement intégrer ces dimensions-là, sont plus acceptables.
Alors on a d'un côté les accords qui deviennent bilatéraux, et de l'autre la résurgence des nationalismes économiques, en tout cas des résurgences. On pense au Brexit, on pense au retrait américain du partenariat transpacifique. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces résurgences aussi, Sébastien Jean ?
Je pense qu'on est face à une crise des institutions multilatérales qui résulte de leur incapacité à se rénover. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est face à une économie mondiale multipolaire qui n'est plus du tout celle des années 80, qui était complètement dominée par les États-Unis et leurs alliés. La Chine est évidemment une puissance incontournable, et puis d'autres grands émergents également. Et d'ailleurs, c'est vrai sur le plan économique, c'est vrai aussi sur le plan militaire et stratégique. Même si les États-Unis restent de loin la première puissance militaire mondiale, ils n'ont plus, si vous voulez, les États-Unis en termes de dépenses militaires, c'était 5 fois la somme de la Russie et de la Chine il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est 2 fois. Ça. Donc, c'est-à-dire, ils sont toujours dominants, mais plus aussi outrageusement que c'était le cas. Donc, on est dans un nouveau monde, et les institutions qu'on a, elles sont héritées de la Seconde Guerre mondiale. Il faudrait les rénover. Or, c'est l'échec sur tous les fronts. Sur l'OMC, l'échec du cycle de Doha. Sur le FMI, la petite réforme des quotas qui a été votée en 2010, il a fallu 5 ans pour la voter parce que le Congrès américain l'a bloqué. La Banque mondiale, on n'arrive tellement pas à la rénover que la Chine est obligée de créer une banque d'investissement de son côté, parce que justement, elle veut avoir un rôle à la mesure de sa puissance. Et donc, on n'arrive pas à rénover les institutions. Et je crois d'ailleurs que c'est une règle générale, c'est plus difficile à rénover qu'à créer des institutions internationales, parce qu'il y a toujours des gens qu'il y a intérêt au statu quo.
Voilà. Alors on va avoir une petite touche d'optimisme quand même. On va se dire que peut-être la régulation bancaire a un peu fait des progrès. On a obligé les banques à renforcer leur capital, à relever de façon conséquente le ratio de leurs fonds propres.
Peut-être c'est vrai. Petite touche d'ailleurs, d'optimisme. C'est une des grandes interprétations de ce qu'on observe depuis 10 ans. C'est en partie d'avoir, disons, fait une partie du ménage au moins dans certains des excès qui avaient précédé la crise. C'est vrai en particulier en termes de dérégulation financière. Et d'ailleurs, les banques européennes ont joué un rôle majeur là-dedans, dans ce désengagement, parce que elles étaient très importantes dans cet accroissement très important des prêts transfrontières.
Thierry Keller.
Oui, tout ça, moi ce qui m'intéresse, c'est que tout ça va de pair avec quand même une dilatation, une redistribution du pouvoir qui avant était effectivement d'entre les mains des États-nations et entre les mains de négociateurs qui avaient le pouvoir de faire. Aujourd'hui, on voit bien que, par exemple, les réactions suite au non-respect, enfin à la non-signature par les États-Unis de la COP21, a suscité tout un nombre de réactions, que ce soit de la part des banques, des entreprises privées, mais aussi des collectivités, des États américains, qui ont dit, finalement, t'as pas signé, c'est pas grave, on va faire notre business dans notre coin, et on va respecter les règles environnementales, parce que il y a un truc qui est complètement fondamental et dont on n'a pas encore parlé, c'est les opinions publiques. Or, les opinions publiques, et l'opinion publique mondiale, qui est quand même plutôt homogène sur ces questions, elle a une force incroyable, et cette opinion publique, elle est accélérée par les réseaux sociaux et par la manière dont les gens communiquent les uns avec les autres et font pression sur les ex-acteurs traditionnels. Donc effectivement, elles sont issues de la Seconde Guerre mondiale. De ce point de vue-là, elles sont structurellement, disons, obsolètes, mais elles sont aussi obsolètes du point de vue de leur non-prise en compte de cette nouvelle distribution des pouvoirs, et y compris jusqu'au pouvoir citoyen individuel.
Et c'est l'heure des nouvelles de l'Écho. Mounia Van de Castel, bonjour.
Bonjour Maïlis, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, on va parler de la phrase du jour.
Bien, la phrase du jour, c'est « Je pense qu'il faut mettre fin à l'ALENA ». Alors, c'est pas moi qui le dis, évidemment, c'est ce qu'a répété le président américain dans un entretien au magazine Forbes publié mardi. Comme vous le disiez, Donald Trump martèle que l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain qui unit États-Unis, Canada et Mexique depuis 1994, est le pire accord commercial qui soit et ne cesse d'évoquer un désastre pour les Américains. Alors, entre Washington et le Canada, les relations commerciales sont assez tendues depuis l'investiture en janvier du milliardaire républicain, alors que les États-Unis absorbent les trois quarts des exportations canadiennes. Le président américain estime que l'ALENA est responsable de pertes d'emplois, en particulier dans le secteur automobile, des emplois qu'il a promis de ramener aux États-Unis en renégociant le traité. Des discussions sont en cours depuis le mois d'août et la troisième session qui a débuté hier, mercredi, doit se terminer le 17 octobre. Et alors, le climat est particulièrement plombé par le différend entre les États-Unis et le Canada sur le dossier des avions de Bombardier. Cependant, de telles tensions au sein de l'ALENA ne sont pas nouvelles. 16 plaintes ont été déposées par le Canada et 7 par les États-Unis auprès de l'OMC. Depuis sa création en 1995, l'organisme de règlement des différends a eu à gérer pas moins d'un demi-millier de conflits. L'administration américaine semble d'ailleurs également vouloir supprimer ce mécanisme, qui est pourtant reconnu comme étant l'un des plus utiles et le plus efficace de l'OMC.
Et le protectionnisme est de retour.
Indéniablement, il y a un vent de protectionnisme qui souffle au-dessus des États-Unis. Trump rompt ainsi avec la politique économique libre-échangiste prônée par les précédents gouvernements américains depuis la guerre froide. Dès son arrivée au pouvoir, il a aussitôt travaillé à une rapide sortie du traité transpacifique, l'accord dont vous parliez tout à l'heure, là, de la zone pacifique, qui avait été voulu et signé par Barack Obama, mais pas ratifié. Après 8 ans de négociations, cette alliance devait concentrer 40% du PIB mondial, un tiers des échanges commerciaux de la planète. Et l'un des objectifs était de contrebalancer le poids de la Chine, qui avait bien entendu été exclue de la partie. Et du coup, la Chine se frotte les mains.
Alors, la Chine se frotte les mains. Cependant, le Made in USA n'a pas la cote.
Eh bien non, en effet, il semblerait que la politique de Donald Trump ait un impact négatif sur les produits fabriqués aux États-Unis. Vous parliez de Made in Monde tout à l'heure, là c'est le Made in USA. Et en tout cas, c'est ce que conclut la société Statista, spécialisée, comme son nom l'indique, dans les statistiques économiques. Ses mesures de contrôle aux frontières, ses promesses de hausse de droits de douane, la remise en cause des négociations sur l'ALENA, le TAFTA, dont on ne parle plus d'ailleurs depuis que le CETA est revenu sur le devant de la scène, auraient ainsi pénaliser la première économie mondiale. Et d'après Statista, donc, l'image d'un pays peut ainsi jouer sur celle de son label avec des répercussions économiques comme un impact sur ses exportations. Et c'est à la fin du 19e siècle que le label Made in avait été créé par les Britanniques avec l'idée de se protéger des importations à bas prix et de la contrefaçon. Et c'est désormais tout un symbole et même plus dans un contexte économique de mondialisation.
Et comme tous les jeudis, le studio d'Entendez-vous l'écho est bourré à craquer puisque Philippe Mabille, directeur de la rédaction de La Tribune, est parmi nous. Bonjour.
Bonjour.
La Tribune dont nous sommes partenaires et qui vient nous parler du chiffre du jour.
Et oui, alors là j'ai choisi un tout petit chiffre, 0,1 point, mais youpi, c'est une bonne nouvelle pour une fois, puisque le FMI vient de réviser en hausse ses prévisions pour la croissance mondiale, donc de 0,1 point. Pour 2017 et 2018, ça fait une croissance estimée désormais à respectivement 3,6 et 3,7 pour cette année et l'an prochain. Donc la mondialisation, ça marche encore un peu. Alors, cela pourrait sembler anecdotique, mais ce n'est pas l'épaisseur du trait. À l'échelle d'un PIB mondial estimé à 75,5 trillions, 75 500 milliards de dollars, et même 115 000 milliards de dollars si on le calcule en parité de pouvoir d'achat. Ça va donc profiter à tous. Si le FMI salue la reprise qualifiée de remarquable et généralisée, est-ce le signal de la sortie de crise ? Là, il faut pas triompher trop vite. D'abord parce que le bonheur n'est pas que dans le PIB. On sait que cet indicateur ne mesure qu'imparfaitement la perception réelle de la santé des économies. Mais il faut pas bouder non plus le plaisir. La croissance revient en effet partout, notamment dans les pays émergents, même en Chine qui suscitait des inquiétudes. Et pour la zone euro, ça devrait être de l'ordre de 2,1% cette année, mais de 1,9% l'an prochain. La reprise n'est donc pas encore consolidée. Et même si les marchés financiers caracolent sur des niveaux records, les fragilités et les incertitudes rendent le monde toujours aussi incertain.
De quelle fragilité on parle ?
Ce qui frappe en lisant le dernier rapport du FMI, c'est la prudence de l'institution. Et c'est vrai que les signaux économiques sont brouillés. Si on regarde ce qui se passe en zone euro, les scénarios sont perturbés par le risque politique, le Brexit. D'ailleurs, le Royaume-Uni se porte pas très bien. Le Catalexit, c'est-à-dire la crise entre l'Espagne et la Catalogne qui interroge de nouveau sur le devenir de la zone euro. En Europe comme aux États-Unis, les séquelles de la crise financière sont toujours là. Le système bancaire reste fragile. C'est la preuve que tout ne va pas si bien. Et d'ailleurs, les banques centrales sont obligées de maintenir des taux d'intérêt encore extrêmement bas. Il y a aussi une inquiétude que pointe le FMI sur les effets de la technologie sur l'emploi, avec toujours le mystère de la productivité qui ne décolle pas. Et enfin, vous en avez parlé, les inquiétudes liées à l'imprévisibilité du fameux Donald Trump avec des tensions protectionnistes et une remise en cause partout de la mondialisation.
Alors comment pérenniser dans ce contexte la reprise en cours ?
C'est le Graal que recherchent les gouvernements et le FMI les pousse à profiter de ces temps de vaches grasses pour accélérer les réformes parce que la fenêtre de tir offerte par ce rebond ne va pas durer indéfiniment. Certains économistes d'ailleurs disent que la reprise est déjà derrière nous et que le fameux alignement des planètes avec des taux, un coût des matières premières bas, ne va pas tarder à se renverser et à provoquer un retournement du cycle conjoncturel. En fait, dans une bonne logique keynésienne, c'est quand cela va bien qu'il faut en profiter pour réformer, réduire la dette et les déficits, mener une politique favorable à l'investissement, parce que dès que ça va plus mal, on ne peut plus rien faire. Et pour parler de la France, Emmanuel Macron, qui bénéficie, c'est clair, de cette chance d'une conjoncture favorable, sait que il doit accélérer les réformes. Après le droit du travail, la réforme fiscale, il veut maintenant appliquer son programme sur la formation professionnelle et l'assurance chômage, pour boucler le tout avant le printemps de 2018, parce qu'il le sait bien, dans un an, il sera déjà trop tard.
Quelle est la une de la Tribune, Philippe ?
Eh bien, la une de la Tribune de cette semaine, c'est sur la French Fab. C'est donc le nouveau label, puisqu'on en parlait, de l'industrie française qui veut repartir à la conquête des exportations. Et il y a un plan du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui veut doubler le nombre des ETI, des entreprises de taille intermédiaire en France. C'est là aussi plutôt une bonne nouvelle si on y arrive. We don't believe you, 'cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. You ain't killing off good young nigga move. When we get hungry, we eat the same fucking food, the ramen noodle. This simple voodoo is so maniacal, reliable to pull a juju. The irony is that this bad bitch in my lap, she don't tell me she make money, she don't study that. She gon' give it to me, ain't gon' tell me none of that. She gon' take the brain away the place she spit on that. The doors and signs with it, don't try to rhyme with it. VH1 has a show that you can waste your time with. Guilty pleasures take the edge off reality. And for a salary, I'll probably do that just sporadically. The
A Tribe Called Quest, We the People. Merci à vous, Mathilde Dupré, Sébastien Jean et Thierry Keller. Je renvoie nos auditeurs à la lecture de l'économie mondiale 2018 de Sébastien Jean, publié aux éditions de La Découverte, et bien sûr à la lecture du magazine Ouzbek Erika. Je rappelle que vous pouvez désormais réécouter nos émissions à l'envi et vous abonner au podcast d'Entendez-vous l'écho sur ce site franceculture.fr. Vous pouvez aussi suivre nos programmes sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Hashtag Entendez-vous l'écho.